espérance de vie que vous avez gagnée depuis l'invention de la télévision, vous la passez devant la télévision.
Avis à la populace.
L'émission collective du collectif pour un lieu culturel indépendant et autogéré à Arras.
Invité et actu du collectif.
Projet alternatif.
Jonglage radiophonique.
Musique.
Et utopies urbaines.
Sur PFM.
Le deuxième lundi de chaque mois à 21h30.
Quand on parle d'espace de liberté, on parle d'une multitude de choses. Vous savez, cette idée qu'il y a peu de choses qui se passent dans la jeunesse, c'est vraiment une idée sur laquelle on a tous à s'interroger, vous comme journaliste, d'autres animateurs, etc. Moi, j'ai en moyenne un débat par semaine, donc ça compte deux dans l'année ou une quarantaine dans l'année dans des quartiers populaires. Je n'ai jamais vu autant qu'aujourd'hui de groupes de musique élaborant des paroles qui sont une analyse sur notre société, de groupes tentant de faire du théâtre et exprimant une colère par rapport à ce qui espace, d'espace où on me demande de venir intervenir pour débattre d'un thème qui est un thème concernant l'ensemble de la société. On n'a jamais eu autant, à mon avis, de jeunes qui tentent de se donner un point de vue politique. La question qui nous est posée, et donc ça peut être des formes différentes, ça va du théâtre à la musique en passant, c'est toutes sortes d'espaces possibles. La question qui est posée, c'est justement que ça reste complètement non connu, invisible, et donc c'est la sortie de l'invisibilité qui est posée. Pour des jeunes qui nous écouteraient, oui, regroupez-vous, faites, n'attendez pas qu'on vous donne et allez interpeller les personnes qui sont payées pour cela et qui ont une subvention pour cela pour que les locaux vous soient donnés et s'il faut du rapport de force, mettez du rapport de force pour pouvoir y avoir accès.
Avis à la populace, l'émission de la populace, le collectif pour un lieu culturel indépendant et autogéré à Arras. Émission normalement diffusée le second lundi du mois à 21h30 et en ce mois de juillet on a à nouveau chopé le créneau du premier lundi du mois occupé habituellement par Julie et Lorraine de l'émission Pour faire le portrait d'un oiseau. Elles ont gentiment accepté de nous céder leur créneau parce qu'on a pas mal d'événements à vous annoncer, pas moins de 3 en une semaine. Il y aura notamment la projection rencontre Slam Session ce mercredi 7 juillet, un après-midi sur l'herbe ce dimanche 11 juillet, puis la rencontre sur le thème des retraites avec la populace et culture et liberté lundi 12 juillet. Mais on va reparler de tout ça au cours de l'émission. Deuxième émission, avis à la populace, modérément, aujourd'hui par Nico. Et au sommaire aujourd'hui, un peu d'actu sur ce qui se passe à Arras au niveau culturel. On aura une interview de Stéphane Gox, qui est le co-réalisateur du film « Volem, rien foutre al país ». On a aussi une interview de Spud, un arageois exilé à Toulouse, et il nous parlera de son expérience au sein des pavillons sauvages, et puis de la musique avec Alex, les deux Rémi et peut-être Sarah. Un peu d'actu pour commencer. D'abord, tout le collectif La Populace tenait à remercier tout le monde pour la soirée du 12 juin dernier. Tous les artistes qui ont joué gratos, la Batouka, C'est pas grave, les jongleurs, Picassiel, les F2M, Racine Papa, les cafés qui ont joué le jeu, le public qui s'est déplacé et ceux qui ont été accrochés sur place. On a passé vraiment une super soirée et tout ça sans aucune autorisation dans les rues, quasiment sans flics pour venir nous faire chier, et avec plein de gens qui sont prêts à s'impliquer dans le collectif, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors quand on précise dans l'intitulé de notre collectif qu'on veut un lieu indépendant, c'est aussi parce qu'on voit bien comment ça se passe dans la ville d'Arras. On remarque que les structures culturelles sont fortement dépendantes de la municipalité ou d'autres institutions comme le conseil général, le conseil régional ou l'État, et que cette dépendance qui pose souvent problème selon nous. Et par exemple, est-ce que telle ou telle structure culturelle peut programmer un spectacle ou des rencontres qui gênent le pouvoir en place? Alors c'est pas sûr du tout dans le contexte actuel, parce qu'autant dans les années 80-90, il y avait un mouvement d'émancipation des relais culturels par rapport aux tutelles politiques, autant on voit bien que c'est vraiment l'inverse qui se produit aujourd'hui. Et que tout, donc centres sociaux, associations, centres culturels, revient sous un giron municipal ou d'autres institutions publiques. Alors, exemple peut-être avec l'ADACO à Arras-Ouest, l'AGAEM à Aimé-Aulens, ou encore récemment au Théâtre d'Arras, où la présidente du conseil d'administration fait partie de l'équipe municipale. Donc, c'est Dominique Mortreux qui est conseillère municipale déléguée aux équipements culturels. Dernier point d'actu à Arras, il y a la Populace, mais aussi plein d'autres personnes qui ont envie de créer un lieu culturel. Alors après, bien sûr, les envies, les méthodes et les aspirations ne sont pas les mêmes selon les personnes. Et par exemple, la jeune chambre économique d'Arras, donc des gens qui s'affichent comme, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets même, futurs leaders de la ville, donc eux ont rédigé le projet du livre blanc d'un toit pour les artistes. Alors, ils revendiquent un lieu uniquement dédié à la musique et aux arts, alors que, bon, Populace, on a toujours dit qu'on souhaitait ouvrir un lieu ouvert à plein de types d'expériences alternatives. Eux veulent le faire avec les institutions, du mécénat privé et le soutien de petits barons de l'industrie culturelle. Alors, on verra bien ce qu'ils feront de ce projet. En tout cas, dans leur petit livret blanc, il y a une petite liste de lieux arrageois qui pourraient servir d'espace culturel, par exemple l'hôtel de Guine, le hangar de Cité Nature, etc. etc. Et aussi donc la salle des orphéonistes qui est située juste derrière le théâtre d'Arras. Et on a appris dans ce livret que cette salle municipale était en vente, donc mise en vente par la ville d'Arras, 200 000 euros. Donc voilà, quand la mairie nous dit qu'elle n'a pas de lieu pour nous, bah qu'ils arrêtent de brader leur salle. Ce mercredi 7 juillet 2010, la Populace vous invite à une projection débat suivie d'une slam session. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Il y a une question qui n'est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Quand monsieur dit qu'effectivement tous les 3 ans il est obligé de restructurer, pourquoi? Parce que les produits sont obsolètes. Pourquoi? Parce qu'en fait vous produisez de la merde. Donc effectivement il est là le problème. Pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde?
La Populace,
collectif pour un lieu culturel indépendant et autogéré à Arras,
vous invite à la projection libre de Volem Rien Foutre Al País.
Un documentaire de Pierre Carle, Christophe Coelho et Stéphane Gox à propos de différentes expériences alternatives.
La projection sera suivie d'un échange et d'une scène ouverte à tous les textes, les chants, les slams, les raps et les prises de parole en tout genre.
Soirée projection slam avec la Populace, rendez-vous au café L'Equinox, rue des Augustines, à Arras.
Mercredi 7 juillet, à partir de 20h, entrée libre.
Auberge espagnole, donc, ramenez de quoi grailler.
Donc à ne pas rater ce mercredi la projection et la rencontre autour du film Volem Rien Foutre Al País. Ça sera suivi donc d'une slam session. Alors, Volem Rien Foutre Al País, c'est le premier documentaire, c'est l'un des documentaires réalisés par Christophe Coelho, Pierre Carle et Stéphane Gox, qui étaient déjà auteurs du film Attention, danger, travail. Donc, c'était un film où il parlait des gens qui ont fui le salariat, et notamment, et donc dans ce film, dans Volem Rien Foutre Al País, cette fois-ci, ils sont allés filmer et discuter avec des personnes qui mettent en place des micro-expériences alternatives. Donc ça va de la personne qui produit sa propre électricité aux gens qui vivent en communauté à la campagne, en passant par les squatteurs en milieu urbain, etc. Et ce documentaire nous amène à nous interroger sur notre rapport au travail, mais aussi sur nos modes de production, de consommation ou encore d'habitat. On avait rencontré Stéphane Gox en avril 2007 à l'occasion de la projection du film, et on va vous proposer donc cette interview ressortie de nos archives.
Volem est une idée qui a émergé assez vite, en tous les cas au moins en tant que titre et ensuite en tant qu'intention, à s'intéresser à des gens qui, quittant le salariat, s'organisaient de manière collective ou semi-collective pour arriver à vivre, et si possible pas trop mal, en n'étant pas obligé d'aller travailler, en tous les cas d'aller travailler de manière subie. Donc ça, c'était l'intention initiale. Et pour financer ce film, parce qu'évidemment nous on travaille en dehors de la télévision, qui est le principal bailleur de fonds du cinéma français aujourd'hui, pour financer ce film, on a commencé on s'est dit, bon, voilà, on va lancer une petite souscription en faisant circuler un premier projet filmique qu'on a appelé Danger Travail dans un premier temps. Donc Danger Travail, c'est une cassette qui a circulé presque sous le manteau, même si ça fait l'objet de projections publiques. Et en fait, là, on s'est rendu compte que dans Danger Travail, où il y avait des témoignages, comme tu le disais, le déserteur du marché du travail, dans Danger Travail, on s'est rendu compte qu'avec ce film, on déclenchait des réactions vraiment violentes ou au contraire enthousiastes, en tous les cas comme si ça débloquait quelque chose. Or, sans vouloir prétendre libérer la parole avec un film, en tous les cas, ça appuyait là où ça faisait mal, ou alors, en fonction des personnes, là où ça faisait du bien. Donc on a, à partir de Danger Travail, on s'est dit, on va essayer de faire circuler ce film un peu mieux, puisque ça fonctionne, et c'est devenu Attention Danger Travail, qui est sorti en salle de cinéma. Donc ce projet faisant son apparition, ça a décalé d'autant la maturation et la sortie de Volem Rien Foutre Al País, qui finalement sort en salle début 2007, quelques années après les premiers pas dans ce projet. Quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de maturation lente, mais c'est très bien. On fait des films anti-productivistes, on travaille sur un rythme artisanal.
Alors oui, justement, tu parlais des réactions, c'est intéressant hein, quand même. J'ai assisté à des projections qui étaient suivies des débats où il y avait des gens qui traitaient les réalisateurs d'irresponsables, et en même temps, parallèlement à ça, d'autres personnes qui, alors c'est une expression hein, que j'ai relevé aussi sur le site internet, qui ont ressenti une sorte de douloureux soulagement. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces réactions? Comment toi tu te les expliques?
Alors, tu parles sur Volem?
Ouais, sur les deux films.
Bon, parlons de Volem, puisqu'il s'agit de ça en ce moment. Écoute, moi je n'ai pas assisté à tant de débats houleux, comme ça a pu être le cas sur Attention Danger Travail. Bon, en même temps, on n'en est que dans les premiers temps de l'exploitation de ce film. Ça fait 4 à 5 semaines qu'il est sorti, donc j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir véritablement me prononcer et dire comment est-ce que le film est reçu. Mais ce qui est clair, c'est que les réactions vraiment souvent viscérales qui explosaient à l'issue de la projection d'attention d'un travail, où on entendait les sièges se lever, les portes claquer, les gens gueuler, d'autres au contraire d'enthousiasme crier au bonheur. Bon, je force à dessin le trait, mais on était vraiment dans ce registre-là. C'était du tripal, du viscéral. Ce qui promettait et des débats animés, et donner lieu à des débats animés, mais pas toujours très aboutis. Sur Voulême, il y a toujours la même volonté de discuter, parce que ça c'est un constat que je fais, c'est qu'il y a véritablement une volonté de débattre de choses qui ne sont pas débattues dans d'autres lieux, ou par d'autres biais, mais on est sur une réception qui paraît plus consensuelle, ou que je dirais faussement consensuelle, parce que c'est un film qui, à mon avis, est plus radical qu'Attention d'âge et travail, qui n'est pas du tout aimable pour, mettons, le salarié urbain. Et pourtant, lorsque les lumières se rallument dans la salle, les réactions sont, on va dire, assez adoucies, comme atténuées. Parce que je pense que c'est un film qui a besoin de faire son chemin chez le spectateur, pour que soit les désaccords, soit les prises de position, soit les analyses commencent à surgir. C'est un film qui offre pas mal de liberté au spectateur, et ne le prenant pas par la main justement, exige sans doute que le spectateur, une fois sorti de la salle, continue à faire son chemin avec le film, ou alors que le film fasse son chemin avec le spectateur. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens est-ce que ça opère. Donc les réactions et les discussions sont pas aussi animées et agitées qu'Attention d'âge et travail. Je crois que tu étais à Lille le mois dernier pour assister à une discussion publique. Bon, ça a bien tchatché, c'est pas mal intervenu, c'est resté quand même tout à fait dans les cadres de la convenance, on va dire, avec pas mal de précautions oratoires, juste un petit peu sur la fin où j'ai été presque forcé d'accentuer les désaccords pour accéder à un peu plus de polémique, parce que souvent la polémique peut enrichir la discussion. Mais bon, pour conclure, j'ai vraiment le sentiment que qu'en dépit d'une réception qui peut être un peu trop consensuelle, tu sens quand même qu'il y a la volonté de discuter, quoi, tu vois, les gens. Tu sens qu'il y a vraiment des sujets qui, n'étant pas approchés dans ces termes-là, ni par la télévision, mais ni même par le cinéma documentaire dit social, qu'avec un film comme Voulême, il y a la possibilité, en tous les cas, d'élargir les horizons. Peut-être pas d'aller très loin, hein. Après tout, ce n'est qu'un modeste documentaire. Mais au moins, tu vois, de te décrasser la tronche et éventuellement d'envisager les choses autrement et la résistance autrement, quoi.
Alors tu disais, t'as l'impression qu'il y a une réception, plus consensuelle, même si le film est plus radical. Est-ce que c'est pas aussi parce que dans Attention Danger de Travail, il y avait des chômeurs qu'on peut certainement croiser tous les jours dans notre vie urbaine ou semi-urbaine, alors que peut-être des gens qui organisent des squats, des gens qui s'organisent pour survivre à la campagne, ça, on a un regard qui est plus proche de quelque chose qui est pas concevable pour quelqu'un qui habite en ville, qui porte un peu un regard sur comme ça des personnages un peu exotiques. Il y avait cette question aussi dans le débat qui était ces expériences-là se passent dans le sud, mais dans le nord c'est pas possible. Cette manière de s'éloigner un peu de ce genre de possibilités.
Oui, ce que je trouve assez curieux, mais systématique comme réaction dans des pays où la culture du travail, la culture ouvrière est très forte. À Nancy, il y a 10 jours, on m'a dit la même chose. Ça, c'est pas pour nous. Ça, nous, dans les bassins sidérurgiques, ravagés par la désindustrialisation, le chômage de masse, envisager vos histoires, c'est pas possible. Alors, pour revenir au début de ta question, Attention d'âge et travail, on a eu systématiquement les mêmes réactions, mais où avez-vous trouvé ces zigotos? Comme si c'était une espèce rare. Alors tu vois, c'est pas des gens que non plus qui font partie du paysage, en tous les cas de manière ouverte, alors que si tu grattes un peu, comme tu dis, tu vas en trouver. Et des gens qui sont barrés dans des expériences, dans des recherches de vie différentes, t'en trouves aussi. Et le risque de ce film et le risque de son écueil principal était que le spectateur mette à distance ses expériences en considérant elles sont exotiques,
C'est bien gentil, ils sont même sympathiques, mais ça ne nous concerne pas, ça ne nous concernera jamais. Si le spectateur perçoit le film comme ça, majoritairement, c'est que le film est un échec. Pour autant, le film n'avait pas pour volonté de séduire le spectateur et de l'inciter demain matin à se barrer et à monter ce genre d'expérience, parce que on n'était pas là pour rendre séduisant de tout rapport ces expériences-là. Non, mais l'idée était au moins qu'à travers ces modes de vie qui peuvent te paraître assez lointains pour un spectateur ordinaire, en tous les cas, viennent interroger ta vie ordinaire. Comment tu vis ? Qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours ? Sans chercher à culpabiliser, mais au moins, comment est-ce que tu te situes dans tout ce grand bordel et comment est-ce que tu participes à la machine, quoi ? Donc, c'est vrai que de prime abord, il peut y avoir une mise à distance, mais si le film arrive et parvient à faire son chemin, je pense que tu finis par te poser un certain nombre de questions. Et la dernière chose qui est, à mon avis, très importante, puisque bon, on est ici, dans le Nord, c'est pas pour nous, gens du Nord. Je l'ai entendu effectivement à Lille le mois dernier, à Nancy il y a 10 jours, et encore tout à l'heure formulé autrement, à Bruay-les-Bussières en fin de journée. Mais sans doute parce qu'il y a une culture du travail et une culture ouvrière qui est enracinée, où la valeur du travail est super ancrée. Mais comme le disait un gars tout à l'heure à Bruay-les-Bussières, qui faisait référence à ce que disait après un débat d'attention d'âge et travail, un vieux cégétiste qui gueulait parce qu'on s'en prenait à la valeur travail, et lui il s'était levé dans le film et il te dit, et il lui a dit, va voir où ils sont nos pères, ils crèvent à Sainte-Barbe de silicone, je sais pas quoi, va la voir où elle est la valeur du travail sous cloche là-bas. Et donc je pense qu'ici aussi on doit être en mesure de porter une critique, et je pense qu'on est peut-être même mieux placé que quiconque pour porter une critique du travail salarié, du travail subi. Ensuite, aller monter, aller occuper de la terre, aller travailler la terre autrement, pourquoi est-ce que ce serait pas possible ici? Moi je connais pas le coin, mais en venant en bagnole depuis Bruay tout à l'heure, on a mis demi-heure à trois quarts d'heure, qu'est-ce qu'on a traversé que des immensités dédiées à l'agriculture intensive, quoi. Que des saloperies céréalières avec des pesticides, quoi. Tout ça, on est en plein dans la politique agricole commune. Pourquoi est-ce que ces terres-là ne pourraient pas servir à autre chose, quoi ? Il y a de la terre ici aussi. Évidemment, on est dans des bassins de population à forte concentration, avec un lourd passé industriel, où la terre, quelque part, a souffert. Mais il y a aussi des vastes zones vertes. Voilà.
Ouais, puis je pense qu'il y a des gens qui le font, et peut-être les gens ici même sont pas forcément au courant. Est-ce que c'est aussi une version en cours, comme il y a eu plusieurs versions de Attention danger travail ou d'autres documentaires où il y avait une première mouture et ensuite d'autres évolutions avec notamment des réactions?
Vous voulez me lasser définitif. Ça, oui. Ça, on s'est très malé le montage pendant un an et demi. Il existe X versions de ce documentaire dont certaines ont été projetées ces derniers mois. Mais ce qui est sorti le 7 mars dernier est la version définitive, c'est-à-dire forcément une version inachevée.
Ouais. Oui, alors justement, dans notre première rencontre, tu nous avais parlé que ça avait été un long travail de montage où il y a eu des débats entre les trois réalisateurs. Alors sur quoi importait un petit peu les débats, les lignes de rupture entre vous trois sur le montage de ce film?
Ce serait beaucoup trop long de retracer des points de désaccord. Je crois que déjà nos sensibilités différentes se sont exercées dans la manière d'orienter l'enquête, au tournage. Je crois que la lutte a été surtout avec le monteur, quoi. Le monteur qui nous a permis d'amener le film là où on ne l'aurait pas amené, mais qui nous a fait mal parce qu'il a fallu accepter de sa part qu'il nous dise qu'il fallait à tout prix, pour le film, pour le bien du film, se débarrasser de certaines séquences que nous on passait impensable d'évacuer.
Du style
un certain nombre de choses qu'on a tourné dans des lieux qui ne figurent pas dans le film, dont pourtant les expériences étaient tout à fait convaincantes, mais qui cinématographiquement ne tenaient pas la route ou dans la narration du film ne trouvaient plus leur place, quoi. Je crois que ce film est aussi le fruit de nos désaccords entre réalisateurs et ensuite entre le réalisateur et le monteur. Et je crois que c'est une bonne chose aussi que de considérer que on peut arriver à créer quelque chose, que ce soit un film ou une expérience de vie humaine, pas uniquement sur le compromis, la négociation, le consensus mou, mais aussi sur des désaccords actifs, tu vois. Des désaccords qui vont te faire avancer parce que t'es pas forcément d'accord avec ton copain, mais tu finis par comprendre que c'est bon pour le projet collectif, quoi. Et c'est ce qui était aussi assez assez intéressant dans cette aventure filmique, c'est qu'il s'agit aussi d'une aventure collective et d'une aventure humaine, quoi.
Alors peut-être aussi un dernier mot sur dernière question, je jure. Sur, bon, vous êtes allé voir un certain nombre de micro-expériences, hein, comme ça, et d'autres où on a, enfin, en voyant le film, on se dit, vous n'êtes pas allé voir par exemple des usines autogérées, des choses comme ça, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe pendant le montage.
Bon, c'est vrai que la dimension de la production est assez évacuée de ce film-là. On a pourtant filmé les expériences de production, on est notamment allé à Ambiance-Bois, dans le Limousin, qui est une scierie autogérée, qui marche depuis plus de 20 ans, donc a largement fait l'épreuve de sa viabilité, qui est sur un registre parfaitement à rebours de ce que préconisent les canons de l'économie marchande, à savoir, ils sont sur égalité des salaires, temps partiel, on bosse le moins possible, pas de hiérarchie, prise de décision collective, mutualisation non seulement des moyens de production, mais également un certain nombre d'outils de vie, hein, comme une machine à laver pour un certain nombre d'entre eux, des bagnoles, un lieu de vie. Donc, sous tout un tas d'angles et de rapports, cette expérience, celle d'Ambiance-Bois, était exemplaire, mais peut-être que finalement elle l'était trop. Et dans ce film qui ne se veut ni pédagogique ni didactique, qui n'essaye surtout pas de vendre des expériences pour qu'elles ne sont pas, ou de vouloir les valoriser à tout prix, en définitive, Ambiance-Bois avait quelque chose de trop exemplaire, et je retiendrai pour ça la formule du monteur, et c'est un des points sur lesquels on a beaucoup combattu avec lui, et pour en revenir à ce que je disais précédemment. Lui nous a dit, Ambiance-Bois, ouais, c'est bien, effectivement, ce qu'il pense, c'est bien. Et pour le monsieur tout le monde, ce serait vraiment une bonne chose que de lui montrer, parce que justement, il ne pourrait pas le mettre à distance, parce que c'est pas exotique. T'as l'impression que c'est monsieur tout le monde qui va travailler à la Syrie, sauf que la Syrie, elle est autogérée, que c'est une égalité de salaire, qu'il n'y a pas d'hierarchie. Oui, tout ça, c'était bien, c'était formidable, mais c'était chiant. Cinématographiquement parlant, c'était chiant. Et le problème, c'est que, in fine, et en dernier recours, c'est somme toute un film de cinéma qu'on a proposé. Même si il paraît décousu, même s'il paraît chaotique, même s'il paraît bordélique, même s'il serait jeté et banni par les pentes de la Fémis, il n'en reste pas moins que c'est quand même une proposition cinématographique qu'on a faite. Et que ce que l'on avait à proposer d'Ambiance-Bois était chiant et ne passait pas dans notre narration et dans notre film. Voilà. Donc, pour conclure, dans cette proposition cinématographique qui, je l'espère, est somme toute exigeante, Ambiance-Bois et les expériences de production qu'on a pu filmer n'y figuraient pas. Quant à celles qu'on n'a pas filmées, j'espère que d'autres le feront. Et puis nous, peut-être qu'on s'y collera plus tard, quoi. Voilà, parce que peut-être que c'est pas fini finalement toutes ces histoires, quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission qui s'appelle Avis à la populace sur Radio PFM 99.9. On vient d'écouter donc Stéphane Gox, l'un des trois co-réalisateurs du film Volem, rien foutre à l'Païs, avec Pierre Carl et Christophe Coelho. On vous rappelle donc que ce film sera projeté ce mercredi 7 juillet au café L'Equinox, rue des Augustines à Arras. C'est à partir de 20h. Il y aura ensuite un petit peu une série d'échanges et une slam session ouverte à tous les textes, à tous les raps, à tous les chants. On continue en musique, et puis juste après on retrouvera l'ami Spud des Pavillons Sauvages pour une interview. Une musique proposée par Alex. Scala and the World Orchestra avec le titre On the Road. C'était proposé pour nous dans cette émission Avis à la Populace par Alex. On passe à la suite de l'émission, une interview de Spud par Sarah.
Salut Antoine.
Salut Sarah, salut les auditeurs de PFM.
Alors Antoine, t'es originaire d'Arras?
Bah ouais, voilà.
Et tu vis à Toulouse depuis quelques années?
Depuis 4 ans maintenant.
D'accord, donc c'est par toi que j'ai parlé pas mal des Pavillons Sauvages, qui est donc un collectif toulousain. Donc je te laisse expliquer un petit peu sa création depuis tout ce temps.
Bah donc il y a déjà Sarah Eden qui avait déjà été interviewée, qui avait fait un petit topo sur le lieu, dans deux émissions différentes je pense. Et donc eux aussi sont originaires d'Arras. Et voilà, donc pour maintenant, on est toujours là, au Pavillon Sauvage, c'est toujours ouvert. C'est... Voilà la...
Quoi, si tu peux juste nous faire un petit rappel, en fait, par rapport à la création des pavillons, comment ça s'est fait, et voilà, comment ça a démarré, quoi.
Bah donc... Les Pavillons Sauvages, on est venu, on a ouvert un lieu, on s'est installé sans rien demander à personne. Et donc, on a eu la chance que la mairie nous laisse continuer l'histoire, quoi. Et en fait, tout le monde croyait que les Pavillons Sauvages, c'était OK, c'était légalisé, qu'il n'y avait plus de soucis, tout ça. Et là, récemment, il y a un mois et demi, on a eu une procédure d'expulsion. Pour la sécurité et le fait que le lieu n'est pas aux normes par rapport à l'accueil du public, tout ça. Donc on est re-dedans. Voilà, donc, et par contre, ça c'est pour la sécurité. On a eu la commission de la sécurité de la mairie qui est venue nous dire que bon, c'était pas aux normes et que si on pouvait pas le mettre aux normes, ils engageraient une procès. Enfin, ils nous ont rien dit d'abord et un jour on a eu les huissiers qui sont venus pour. Nous demander de se barrer, quoi. Voilà, dire et constater qu'on n'avait pas qu'on était encore là et tout ça. Et donc nous, parallèlement, on est en relation avec des bureaux de la mairie qui sont tout à fait d'accord. Et donc la mairie, elle est rattrapée par le Grand Toulouse qui est donc ils peuvent pas laisser faire ça aussi longtemps, en fait. Eux, ils nous ont laissé faire parce que ils savaient pas comment
gérer le truc. Et...
Voilà, et donc pendant 2 ans, en fait, on est en relation avec eux, mais il y a rien de vraiment signé. Enfin, c'est super long à mettre en place. Ils comprennent pas le but vraiment.
Donc ils vous appuient pas tant que ça, en fait. Hein. Ils sont pas, ils vous laissent faire, ils ferment un peu les yeux, mais ils sont pas, ils vous soutiennent pas, quoi. C'est pas du soutien que vous ressentez avec eux.
Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a une sorte d'accord tacite qui s'est créé entre nous et la mairie, et donc pour finir, en fait, c'est juste un accord oral, quoi. Oui, en fait, il y a eu d'autres histoires dans d'autres squats. Il y a eu des problèmes, deux squats qui ont brûlé, où il y a eu des gens qui sont morts aussi. Et depuis, en fait, ils se sont dit, ah bah tiens, s'il y a un problème au pavillon, c'est nous qui sommes responsables. Donc, officiellement, on a une procédure. Et nous, après, à nous de faire les travaux qui sont à 40 000 euros de mise aux normes. Donc là, on va peut-être demander des subventions pour mettre aux normes, quoi.
D'accord.
Voilà. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux auditeurs, aux auditrices qui n'ont pas écouté forcément les autres émissions, en quoi ça consiste ce lieu occupé? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qui s'y passe toute l'année, en fait?
Ah bon, alors donc là cette année on a fait 200 concerts. Voilà, ça fait un concert, ça fait des concerts toute la semaine. Et donc aussi on fait, il y a un jardin qui est ouvert à tout le monde, qui était préservé de la destruction. Donc déjà ils nous ont détruit la moitié du lieu qu'on occupait pour faire un immense immeuble. Là, on a eu un an de travail, un an de chantier à côté de chez nous, et là ils vont s'installer bientôt. Et c'est horrible, quoi. Ça gâche la vue, c'est des vrais cages à lapins, quoi. C'est la spéculation immobilière, quoi, à l'état pur. Et donc après nous on propose plein de choses, quoi, le jardin potager, un four à pain collectif, des soirées. des locaux de répétition. En fait, c'est un peu, il y a tellement de choses qu'eux, ils comprennent pas pourquoi on veut faire tout au même endroit. Et je pense qu'ils aimeraient bien, et aussi pourquoi on veut y habiter aussi. Alors c'est la grande question. Eux, en fait, la mairie ne comprennent pas ce qu'on y fait vraiment. Il leur faut des gens, des chefs ou des dirigeants ou des. Il leur faut un truc pour comprendre quoi. Même nous, on comprend pas vraiment ce qui s'y passe, quoi, tellement il y a de choses différentes. Donc voilà, on fait. Enfin, c'est varié, quoi. Enfin, il y a un site internet, quoi. C'est, vous pouvez regarder dessus, les pavillons sauvages. Donc voilà, c'est plus explicite, quoi.
Et donc, au niveau de la situation actuelle, c'est assez délicat pour vous. Vous pensez pouvoir gérer ce budget de sécurité et pouvoir mettre aux normes assez rapidement avant de pouvoir. Bah, vous pensez qu'il va y avoir une fermeture sûrement ou
non,
comment vous voyez les choses quoi.
Personne s'inquiète quoi en fait, tout le monde sait qu'on ne sera pas viré, mais ça remet en question la demande de subvention, de l'autogestion quoi. Qu'est-ce qu'on fait les choses nous-mêmes, nous en fait on fait des concerts à prix libre, et si il fallait qu'on paye 40 000 euros de normes que eux nous imposent, bah on ferait payer les concerts et ça là, on serait vraiment indépendant, quoi, mais les concerts seraient plus à prix libre.
Bien sûr.
Et donc, sinon, on peut aussi très bien aller choisir d'aller squatter un autre truc, quoi, mais en fait, là, on peut faire des concessions, quoi, faire des demandes de subventions, peut-être même avoir des emplois aidés, tout ça. Mais, ah oui, parce qu'au pavillon sauvage, il y a aussi des gens qui sont employés, mais pas directement par les pavillons sauvages, par d'autres associations, parce qu'on a... à peu près 80 associations qui sont sur les papiers avec nous, dont une petite dizaine qui sont domiciliées au pavillon et dont eux sont subventionnés, ont des gens qui bossent pour eux, qui travaillent au pavillon sauvage. Donc voilà, et en fait nous on veut pas demander de subvention. Là par exemple on a une association qui avait fait une demande de subvention pour avoir du matos. Plein de matos, vidéo, sonore et tout. En fait, il y a d'autres personnes qui sont pas vraiment d'accord parce qu'on veut continuer à... En fait, on veut bien faire des concessions, mais pas... Déjà, ils ont racheté le lieu quand même pour nous laisser, entre guillemets, y rester. C'est déjà une forme de subvention, quoi. C'est qu'après, on veut quand même continuer de rester dans une forme de récup, de pas se faire endormir parce qu'on leur a demandé des choses. Voilà, en fait, je pense qu'il faut rester quand même bien, bien radical dans nos idées, quoi. Sinon, on se fait rattraper, ils essaient d'étouffer l'histoire.
Ouais. Tu parlais de plein d'associations, et puis tu parlais aussi des discussions, des débats que vous avez ensemble. Comment ça s'organise collectivement, en fait? Vous avez, je sais pas, une réunion toutes les semaines et comment ça s'est structuré, en fait?
L'association Les Pavillons Sauvages vient d'être posée, là, il y a peut-être 2 mois. Les statuts ont été posés. On n'était pas au clair du tout. Les comptes étaient sur le compte d'une autre asso, sur des comptes personnels. Enfin, c'était un peu illégal ce qui se passait, quoi, aux yeux du fisc ou de la comptabilité ou même de certaines assos. Pour eux, ils sont dans une asso qui n'est pas posée, quoi. C'est que ça posait un peu des problèmes, quoi. Nous, on fonctionne en réunion. Au début, en réunion d'habitants. Après, en réunion ouverte aussi. Enfin, il y a différents types de réunions. C'est que maintenant, il y a différents pôles qui se sont créés. Donc, il y a une... aussi, c'est une collégiale, quoi, maintenant, avec des coprésidents. Tout le monde est coprésident. Il y a des co-trésoriers aussi, qui sont 6, je pense. Là, on doit être une bonne vingtaine de coprésidents. Et donc c'est le Conseil des Sauvages, ça s'appelle. Et donc après il y a une AG par an, une AG extraordinaire avec tous les intervenants du lieu. Là on est peut-être 100, voire 200, ou 50. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que tout le monde peut devenir coprésident, faire sa demande de coprésident. Après il y a aussi des réunions internes entre les habitants, quoi, qui sont vraiment entre habitants. Et ça c'est pas affiché, si on a besoin de discuter comme dans une coloc, on discute, quoi. Et après il y a des réunions avec les résidents, dont asso résidente et habitants. Et après il y a ces réunions, il y a la commission musicale par derrière qui s'est créée pour avoir un poids aussi sur la ville, et donc après il y a plein de réunions diverses selon les pôles d'activité du lieu, quoi. Et en gros, on est une structure collégiale, quoi. Ça fait qu'on est beaucoup plus fort, quoi. Une asso peut devenir coprésident, un habitant peut être coprésident, un voisin peut être coprésident.
Et ça vous est paru indispensable de justement avoir un statut d'association alors que vous étiez un collectif déjà depuis un moment? Moi, j'ai pas mal de gens en ce moment sur Arras qui me, des gens un peu plus vieux, plus qui ont peut-être plus d'expérience dans la vie et des expériences dans, à ce niveau-là, qui me disent mais pourquoi vous créez pas en association plutôt qu'un collectif? Moi, j'essaye de leur faire comprendre que c'est un peu un but chez nous de montrer que même sans avoir un statut associatif, qu'on peut aussi faire des choses et qu'on peut échanger, partager et créer quelque chose, quoi. Et je me dis, bon, finalement, ces gens-là, je leur réponds, je pense qu'on va y venir. Je pense qu'au bout d'un moment, on va y venir parce qu'on n'aura pas le choix, parce qu'on... Voilà. Mais parce que ça, c'est des portes qui nous seront quand même plus facilement ouvertes, ce sera des subventions plus facilement prenables. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Et est-ce que ça a été indispensable chez vous de devenir, justement, d'avoir ce statut d'association?
Bah, t'es pas obligé de la poser direct, ton asso. Tu peux faire pendant quelques années avoir un nom comme ça, comme Populace. Et puis un jour, si t'es rattrapé par l'administration parce que vraiment ton lieu il a marché, tout ça, là oui, tu peux poser tes statuts. Et en attendant, tout ce que t'as intérêt à avoir une historique de tout ce que t'as fait pour justifier qu'en fait ton asso elle existe déjà. Si t'es pas une asso, t'es pas obligé de la poser pour qu'elle existe de fait, quoi, parce que t'en fais. Enfin voilà, c'est moi je pense qu'au début tu peux rester dans le vague, quoi. Déjà Populace, tu peux te servir aussi d'autres de relations qu'on a, quoi, avec d'autres assos pour aussi appuyer, quoi. Mais je pense que c'est plus par ce que les gens font, quoi, que ou tu peux aussi te mettre avec les assos d'Arras qui ont des locaux trop petits et qui seraient super contents de venir chez vous. Si jamais vous avez un lieu indépendant. Donc, enfin, lieu indépendant, c'est aussi un synonyme de squat, quoi. Enfin, ça peut être synonyme, quoi. Et donc, si tu veux être vraiment indépendant, soit tu le loues, ou tu le squattes, ou tu l'achètes. Et donc, faut voir ce que tu as envie de faire, quoi. Ou sinon, tu demandes à la mairie, t'attends, comme ça a été fait ici. Il y a une demande à la mairie et. Je sais pas s'ils sont OK à donner des locaux aussi grands à tout ce que vous voudriez y faire, quoi. Parce que sur le papier, c'est vachement vaste, quoi. Faire des rêves parties, de je sais pas quoi.
Des rêves REVES. Hein, ça n'a rien à voir avec les rêves parties des. Hein, n'est-ce pas?
Non, je sais pas.
Mais et donc pas bon, bah justement on parle de Populace un peu. Toi donc t'es originaire d'Arras, donc tu sais un peu ce qui s'y passe à Arras. Tu l'as quitté peut-être pas pour rien non plus. T'es allé dans le sud, t'es allé sur Toulouse. Et c'est quoi ton regard, ton avis sur le collectif qui a été créé? Bon, tu t'en as entendu parler quand même un peu, sachant que toi tu fais partie d'un collectif déjà bien ancré, déjà bien actif. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah rien. Bon, en fait,
cool.
Je trouve que c'est chouette, quoi. C'est bien qu'il y ait enfin un truc qui se passe ici. Bon, après on va dire Arras c'est mort, il n'y a rien qui s'y passe, mais il y a quand même des choses qui s'y passent.
Ah, il y a eu le Main Square ce week-end. C'est
voilà,
vrai que c'était
comme
fantastique.
Le Main Square, il faut dire que c'est super chouette. Quoi. C'est vraiment bien, quoi. C'est
alors toi qui a payé ton passe 3 jours, justement.
Alors c'était Rammstein, c'était plutôt naze. Bon, voilà. Fin... C'est moi je pense que faut ouvrir un lieu sans rien demander à personne, quoi. Faut passer par des voies radicales, quoi, sans vouloir peser des bombes et ah bon voilà, après on parle d'anarcho autonome, de squatter, de gens qui veulent pas payer leur loyer et la mairie va dire ah mais en fait voilà pourquoi vous êtes pas venu nous demander, ou enfin si vous allez leur avez demandé qu'ils vous donnent rien, bah faut pas hésiter, quoi. Je pense qu'il y a un moment où on va y venir ou louer, ou enfin faudra faire un choix. Et si bon, je pense qu'au lieu de que tout le monde loue des colocations, loue un hôtel particulier tous ensemble et on en fait un truc, quoi. Mais c'est pas le cas, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens vraiment en galère de logement non plus à Arras, quoi. Mais je pense que ça serait pas mal qu'il y ait un lieu ouvert, quoi. Et après, pourquoi voir la réaction de la mairie, quoi, juste pour médiatiser un peu l'histoire et voir qu'est-ce qu'il en retourne, quoi, comment ça se... Mais je pense que c'est pas le but vraiment d'ouvrir un lieu, quoi, enfin, ou de squatter, c'est s'il faut déjà faire des choses, quoi, avoir des choses à proposer, et bon, Populace, c'est bien, je trouve que ça tourne d'une bonne manière, quoi, il se passe des choses... en dehors que de dans un lieu, quoi. C'est aussi dans la rue. Et, bon, et puis quand cet hiver va arriver, il va faire froid, on pourrait plus aller faire des choses dans la rue ou dans les parcs ou dans les lieux publics, quoi, qui sont à tout le monde. Et en fait, c'est beaucoup... Enfin, les... Bon, après, voilà, il y a beaucoup de maisons qui sont à des privés, qui sont vides. Et donc, il faut mieux peut-être essayer de le faire bien, de trouver, réquisitionner des logements qui sont publics, quoi, ou d'anciens bâtiments publics, comme des trucs de l'armée. Ou... Mais bon, en fait, l'hiver arrive vite, et après, bon, bah, le collectif, je pense qu'il aura besoin d'un lieu, il va faire froid, et voilà, quoi. Bon. Après, je sais pas ce qui va se passer, quoi, c'est... On verra, quoi.
Alors, en tout cas, on va peut-être parler justement de ce qui va se passer, puis après, on terminera avec toi, Spud, parce que tu as d'autres trucs à nous dire sur les réseaux de squat, notamment. Donc, il y a les deux Rémi qui veulent peut-être intervenir au micro pour nous présenter peut-être la soirée de mercredi. Qu'est-ce qui s'y colle, Rémi ou Rémi?
Rémi.
Rémi.
Oh merde, encore moins. Bon, ouais, en fait, on fait donc mercredi, vous l'avez entendu sur la radio de PFM 99.9. Il y a une soirée, une projection qui s'organise à l'Equinoxe mercredi à partir de 20h, donc ce mercredi-ci, donc avec le film Volem rien foutre al país, donc dont Rémi pourra mieux vous en parler. Enfin, et donc cette projection sera suivi d'une auberge espagnole, donc tout le monde ramène à manger, on mange tous ensemble, on discute de ce qu'on a envie de discuter, et on finira par une petite session slam où les gens qui veulent ramener des textes et les slammer, les lancer, les projeter, les écraser par terre, le font avec plaisir et véhémence.
Voilà, un mot sur le film peut-être à nouveau, Rémi?
Ouais, rapidement, bah, Bolem, je pense qu'il y a eu un bon aperçu tout à l'heure avec l'interview de, je sais plus comment il s'appelle.
Stéphane Gox, ouais. Voilà.
Bah, je pense que c'est un film qui touche la culture large, on va dire, celle qui touche à la vie de tous les jours, au temps, donc au travail, et donc à qu'est-ce qu'on peut faire de son temps. Est-ce que on peut peut-être se réapproprier un petit peu tout ça pour un peu plus vivre, on va dire, et moins subir?
Moi, je voudrais dire, oui, par rapport à des personnes qui auraient peur à ce genre de truc, c'est... Par exemple, si vous êtes obligé de travailler pour gagner des sous et donc payer une voiture, un logement, une assurance, compagnie, vous arrêtez de travailler, le temps que vous passez à ne plus travailler, vous le dépenser à créer votre maison, à créer votre logement, votre jardin, voilà. Le temps, c'est de l'argent, mais on n'est pas obligé de le gagner. Le temps, on peut le dépenser en activité au lieu de faire en sorte de gagner de l'argent. Donc l'argent que tu ne gagnes pas, tu l'économises en le faisant par toi-même. Donc c'est aussi un peu ce qu'explique ce film, c'est-à-dire au lieu de travailler pour gagner de l'argent et après le dépenser, plus besoin de le gagner de l'argent, le faire directement soi-même.
Ce qui est bien dans ce film, souvent on m'a dit, quand on parle de ces choses-là, c'est que c'est une utopie, que c'est bien, il y en a plein qui voudraient faire tout ça, mais clairement c'est pas possible, on vit pas dans ce monde-là. Et en fait, y en a qui vivent comme ça, déjà, et ce film le montre un peu, et en parle bien.
Donc ça c'est mercredi à l'Equinoxe, à partir de 20h on rappelle, et puis dimanche, donc il y a un après-midi sur l'herbe artistique, est-ce qu'il veut bien en parler?
Alors c'est encore moi qui m'y colle, aujourd'hui c'est ma journée. Bon, alors dimanche, oui, donc une bonne après-midi sur l'herbe artistique, jonglage, chant, danse, musique.
Partage.
Et sportif, partage aussi, sportif. C'est vrai. J'ai un peu oublié, je suis désolé.
Non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas sportif moi-même.
Alors concrètement, comment ça va se passer?
Alors en gros, ça commence à 15h30, tout le monde ramène, par exemple une personne qui veut faire du jonglage... Si elle a du matériel de jonglage, ramène son matériel de jonglage. Sinon, elle espère que quelqu'un d'autre puisse en ramener quand même. Mais si vous avez quelque chose à ramener, vous avez une idée de quelque chose, ou même pas d'idée, mais en tout cas du papier et des crayons, ramenez du papier et des crayons.
De la bière.
Non,
pas de bière, justement. On va essayer de faire sans bière, hein, pour une fois. C'est pas des concerts punk, hein, s'il te plaît.
Du jus de fruits et de la tarte.
Mais,
voilà, tout à fait.
Voilà, des jus de fruits et de la tarte.
Ramenez à manger, le goûter, quoi.
C'est très bien. Mais donc, vraiment dans l'esprit où tout le monde peut ramener quelque chose de toute façon, tout ce qui sera ramené, je pense, sera à peu près utilisé. C'est vraiment ramener du matériel et sur le moment, on voit ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on fait de bons échanges et qu'on crée de belles choses.
Je vais rajouter juste un truc par rapport au fait que moi, j'aimerais bien que ce soit une journée qui se réitère par la suite, d'autres dimanches ou d'autres journées cet été. Bon, le temps qu'on n'a pas encore de lieu, ça rejoint ce que disait Antoine tout à l'heure. Aujourd'hui, on s'approprie des lieux publics, des lieux ouverts, des lieux dans lesquels on peut montrer un peu ce qu'on est capable de faire, sachant qu'on est en attente d'un lieu. On attend plus ou moins le début de l'automne pour se dire, à mon avis, là, on va commencer à avoir froid, il va falloir qu'on se bouge un peu. Et là, donc, cette journée, ce fameux dimanche sur l'herbe, moi j'aimerais bien par la suite que ça puisse qu'on puisse s'approprier d'autres parcs. Là, cette semaine, ce sera donc ce dimanche 11 juillet, ce sera au parc du gouverneur. Et voilà, on aura toujours avec tous les parcs qui nous sont offerts sur Arras, et ça, c'est vrai que c'est une grande chance. On a quand même de chouettes espaces verts, et y a moyen d'en profiter. Il y a moyen de faire partager tout ça et de faire venir des familles, des enfants. Et que vous ayez du matériel ou pas, vous êtes les bienvenus pour partager, échanger, même pour discuter. Et voilà, c'est une occasion de se retrouver et puis de faire connaissance et de pouvoir partager. Et nous, c'est un moyen pour nous de parler de notre projet et puis de vous expliquer un peu ce que réellement on veut faire, quoi.
Donc rendez-vous ce dimanche 11 juillet à partir de 15h30. C'est du côté du kiosque du parc du gouverneur, donc en face du lycée Robespierre. Il y a un autre rendez-vous, un troisième, et après on finira avec Spud. Donc le troisième rendez-vous, c'est l'échange... Rencontre-échange sur la question des retraites, la réforme des retraites. Donc c'est le lundi 12 juillet à 18h30. Et là, c'est le rendez-vous à l'Office culturel. C'est avec l'asso Culture et Liberté. Donc c'est ouvert à toutes et à tous, si vous voulez. On termine avec Spud. Donc tu voulais nous parler des rencontres intersquats.
Ouais. Donc voilà. Bon, mais je voulais aussi préciser par rapport... on parle de culture populaire, culture, machin, truc... Donc je pense que l'art, quoi, et la culture, c'est fait pour dénoncer des choses politiquement parlant, quoi, qui sont des luttes sociales, des luttes de classe, des luttes des genres, tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Et donc je pense que c'est vraiment, par rapport à la mairie d'Arras, quoi, en fait, eux, ils vont se sentir attaqués. Déjà, ils se sont déjà attaqués. J'ai vu un compte rendu dans le journal, sur un article où voilà, en fait, ils le prennent un peu pour eux, je pense. C'est comme ça que je l'ai vu. Et donc, faire vachement attention quand même au côté radical, quoi. Bon, si on parle de squat, on peut aussi changer les noms, quoi, comme. C'est juste un des éléments de la chose, quoi. Donc sinon, moi je suis allé aux rencontres internationales européennes, enfin internationales, qui se passent en Europe des squats. C'était à Barcelone le 17, 18, 19 juin. Donc voilà, il y avait 4-5 pays, enfin il y avait un peu plus, même il y avait des Américains, des Anglais, enfin il y avait un peu, il n'y avait pas d'Italiens, il y avait plein de gens de l'Europe entière. C'était traduit dans toutes les langues. Et donc voilà, en fait, Barcelone, c'est 400 squats quand même, il y a 300 000 logements vacants et 3 millions d'habitants. Et donc, en comparaison, à Toulouse, il y a 40 squats recensés à peu près, quoi. Donc il y a 20 000 logements vides et 2 000 qui appartiennent à la mairie et il y a 300 000 habitants. Donc c'est à peu près proportionnel, quoi. Donc à Arras, il y a 50 000 habitants et je pense qu'on peut faire le calcul.
Il faudrait 4 squats.
Voilà, mais en tout cas, des logements vacants, il y en a, et de la spéculation immobilière, il y en a partout, des luttes, il y en a partout. Et donc le réseau InterSquat, ça se retrouve beaucoup aussi sur squat.net. Donc à Barcelone, d'ailleurs, on a eu un compte rendu des gars qui font le site squat.net qui appellent... à tout le monde à participer. Eux, ils ont un serveur plus gros, ils peuvent héberger des blogs. Donc le blog InterSquat de Toulouse, par exemple, on va le faire héberger sur squat.net. Le blog de Populace, il peut être aussi hébergé sur squat.net, parce que c'est pas que ça parle pas que de squat, et c'est aussi pour faire un lien entre les différentes villes. Donc voilà. Donc là, il y avait eu aussi un InterSquat français avant l'international, c'était à Rennes. Et donc voilà, et là en ce moment à Toulouse on fait le Pili Fest, c'est un peu pour... Enfin voilà, c'est des journées où il y a des débats, des choses, des concerts, plein de machins. Et donc à Berlin, c'est l'InterSquat au mois de... vers le 18 septembre à Berlin. Donc tout ça vous pouvez le retrouver sur squat.net. Voilà, et de, aussi dans ce site il y a la brochure Le Squat de A à Z qui explique comment ouvrir un squat de A à Z. Donc voilà, et ce réseau, bon, il existe vraiment, et c'est voilà, qu'on voilà, faut être en contact entre les lieux, et voilà, et en fait, en revenant de Barcelone, moi, je m'étais dit, ouais, c'est super Barcelone, on va ouvrir un squat là-bas, j'ai envie d'y vivre, et je pense qu'il y a plein de petites villes, plein de petits endroits où il se passe rien, et autant c'est là qu'il faut venir faire les choses. Donc quand on dit Arras, c'est mort, et Arras... C'est vrai que c'est mort, il n'y a pas grand monde, il se passe pas grand chose, mais...
Il y a plein de trucs à faire.
Voilà, il y a plein de trucs à faire, et c'est peut-être dans les endroits où il n'y a rien qui se passe vraiment, qu'il faut venir, et dont en fait on est... ça fait que s'il y a un lieu, moi je pense vraiment à la fin, c'est ma conclusion, c'est que s'il y a un lieu à Arras, il sera vraiment soutenu par l'InterSquat mondial, quoi. Et voilà, en fait, il y a du soutien, et il ne faut pas s'en faire, quoi.
Spud, merci, on arrive vraiment à la fin de l'émission, merci à toutes et à tous d'y avoir participé. On rappelle donc l'adresse du blog de Populace, populace.over-blog.com, et puis on a une nouvelle adresse email, populace@hotmail.fr. Il est 22h passé de 40 minutes, on est bien à la bourre. C'est pas grave, c'est l'émission Avis à la Populace sur Radio PFM. Pusztaságon, ablakon átvágtat épp a háza. Mi van az a drába? Répa saláta, zöldség, gyümölc, székla, banánna, kövér süldő, tészta, kalácsaj. Morfondírozik egy darabig magában, a sorozatra visszaérek talán majd. Irány a vásárban, nincs más hátra, kabátos hús lesz vacsorára. Unokái, fullos gágyik, néha eljön egyik másik. Kar a karé, lába lábé, lába karé, kar a lábé, diszkét pakolás, kis csalamádé, dinnyét akkorát, mint Pamela. Homeopatia, homeopatia, homeopatia.